On va passer dans le milieu marin. Donc, je vais vous présenter des réflexions. J'essaie de m'adapter au thème du programme que j'ai reçu hier sur le point sur les connaissances. Dans le milieu marin, les moyens d'observation et de prospection sont un peu plus complexes. Beaucoup de choses se passent sous l'eau. Il y a des organismes extrêmement petits. Et donc, c'est des choses qui sont forcément pas toujours aussi visible qu'on peut l'avoir en milieu terrestre. L'essentiel est souvent invisible pour les yeux dans le milieu marin, comme le disait le célèbre aviateur à gourmettes. Alors, on parlait de définition. C'est effectivement quelque chose qui est souvent le premier débat dans les spécialistes. Donc là, je vous ai mis une définition qui a été utilisée pour, dans le sein de cette directive pour les espèces marine. Donc on parle d'espèces non indigènes. Donc c'est pas forcément hors sujet. Toutes les espèces ne sont pas invasives dans ces espèces introduites. Et c'est même celles qui nous intéressent peut-être le plus. Donc je vous expliquerai ensuite pourquoi. Donc sur l'état des connaissances, il y a un bilan qui a été fait au niveau national. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait aucun suivi national pérenne du milieu marin, des espèces introduites. Donc, et qu'il y avait aussi de fortes lacunes en termes de réglementation. Pour la Manche Atlantique, il y avait 147 espèces connues. Donc, je vous parle d'un recensement qui a été fait essentiellement dans la littérature ou au sein des différents experts, des différentes stations marines. Donc je vous parle de ça en l'absence d'un réseau d'observation dédié, donc c'est un minimum, dont 26 espèces invasives. J'avais adapté cette présentation pour la Manche, hein, je suis désolé, donc ça donne une autre vision. Donc, dont 103 espèces en Manche recensées à fin 2011. Il y a déjà des mises à jour qui doivent être faites sur cette liste et c'est un travail qu'on va continuer, qui est en cours. Voilà, donc les engagements de cette directive, c'est une directive importante pour les scientifiques et les gestionnaires, hein, qui travaillent ensemble sur cette directive, parce que c'est une directive qui prend d'emblée l'ensemble de la biodiversité du milieu marin et toutes les pressions associées. Et donc, les espèces non indigènes ou espèces introduites, invasives, sont mentionnées explicitement avec des objectifs clairement établis. Suite à des ateliers scientifiques qui ont été réalisés pour se réfléchir sur la question, au niveau national comme au niveau européen, il y a des travaux au niveau des conventions des mers régionales, on appelle ça. Donc c'est des travaux qui réunissent plusieurs pays qui bordent les mêmes mers, et aussi au niveau de la Commission européenne. Et donc, il y a des recommandations qui ont été faites par ces scientifiques. Trois programmes dans l'idéal qu'il faudrait monter. Un qui s'intéresserait donc à la source de cette pression biologique, donc les espèces introduites. Donc c'est là où on va parler des vecteurs d'introduction qui sont responsables de l'import et de transfert de ces organismes. La pression biologique elle-même sur le milieu marin, donc c'est des suivis dédiés au sein de zones à risque. Donc les zones à risque, ce sont des endroits où se concentrent ces vecteurs qui amènent ces espèces. Et ensuite, le troisième programme qui est vraiment l'état de cette introduction et de cette colonisation ou invasion de certaines espèces et les impacts que ça peut avoir sur le milieu naturel. Avec aussi toutes les données qu'on peut récupérer, et c'est ce qui est surtout le cas à l'heure actuelle, dans des programmes qui ne sont pas dédiés, de suivi des habitats marins, poissons, etc. Voilà. Donc le premier programme, qui est celui en priorité, qui était recommandé prioritaire, donc s'intéresse aux différents vecteurs. On voit un des vecteurs principaux pour le milieu marin, qui est le trafic maritime, donc à la fois pour les eaux et sédiments de ballast, donc il y a une convention de l'Organisation mondiale qui est en œuvre pour essayer de résoudre ce problème, mais aussi par les biosalissures, donc c'est le terme de fouling qu'on entend sur les coques, c'est-à-dire les espèces qui voyagent clandestinement sur les coques des bateaux et qui peuvent s'implanter dans les zones à risque, donc bien souvent les ports ou les zones de carénage. Un autre vecteur important pour le milieu marin, ce sont les cultures marines. avec l'import et l'export de l'eau, notamment de Nessin aussi. Pas mal d'espèces ont été introduites de cette façon, que ce soit au niveau international ou aussi au niveau national. Et il y a aussi beaucoup d'autres vecteurs, plus ou moins importants, qui ont été recensés. Les rejets des arts traînants pour les pêches, hein, les arts traînants, les dragues, les chaluts, etc. C'est des choses qui peuvent introduire des espèces donc de façon secondaire, c'est-à-dire les disséminer dans de nouveaux endroits, etc. Voilà, donc ce sous-programme a vraiment un objectif préventif. Donc sur le schéma en bas, qui est un schéma que j'ai tiré de la littérature, hein, une publication de Holnin, donc un scientifique qui travaille plutôt en mer Baltique. Vous voyez ce processus donc, d'une source externe de propagation de cette espèce, l'entrée dans une voie, donc dans un processus pour passer cette fameuse barrière biologique donc, qui a été montrée dans la présentation précédente, jusqu'à la phase d'introduction de cette espèce. Donc c'est vraiment cette phase clé qui est la prévention et qui est de manière unanime souvent dans le monde de scientifique, que ce soit national ou international, qui est vraiment la phase clé pour lutter contre ce problème. Voilà, donc le deuxième sous-programme s'intéresse aux zones à risque, aux zones sensibles, c'est-à-dire que si on n'a pas résolu ce problème à travers les vecteurs, et ce n'est pas forcément pour demain, si vous avez vu l'ensemble des vecteurs et des manques de réglementation, donc c'est de s'intéresser justement aux zones à risque, là où peuvent arriver principalement ces espèces. Donc essentiellement, là je vous illustre les ports et les cultures marines, donc c'est lié aux vecteurs. On parle aussi de zones sensibles au bio-impact, donc il y a aussi des nouveaux termes qui sortent, hein, de biopollution, pollution biologique, de bio-impact. Donc ce sont des endroits qui sont particulièrement sensibles ou vulnérables. On imagine par exemple des archipels ou des îles dans le milieu marin, qui sont des milieux avec une biodiversité quelquefois assez particulières ou endémiques, et donc qui sont particulièrement sensibles aux invasions biologiques. Et donc l'objectif de ce programme de suivi recommandé est un objectif d'alerte, donc qui correspondrait aux phases de première éradication, de détecter ces espèces dans ces milieux, et qui sont traditionnellement, d'un point de vue biodiversité, pas forcément les endroits les plus suivis, les ports et les zones de culture marine. Ce ne sont pas forcément les endroits où on s'intéresse en priorité à la biodiversité. Voilà. Et le troisième sous-programme consiste à s'intéresser directement aux espèces invasives, donc celles qui sont le plus remarquables, que l'on voit le plus, dont on entend parler quelquefois dans les médias. Je vous ai mis quelques exemples d'espèces marines, hein, plus ou moins profondes. Hein. Donc vous avez l'aspartine dans les prés salés, des acidies, certaines acidies qui peuvent recouvrir des structures. Je vous ai mis les nuisances induites sur les activités. C'est souvent ça qui déclenche l'information sur cette espèce, à partir du moment où ça nous embête. Je parle de nuisances induites et pas d'espèces nuisibles. Peut-être une petite nuance, mais qui me semble assez importante. C'est nuisible pour l'homme. Là, je vous donne le point de vue écologique. Les huîtres creuses qui peuvent proliférer hors des cultures, qui est une espèce introduite, cultivée, mais à partir du moment où il y a eu des phases, il y a quelques années, où elles sortent des cultures, elles deviennent une espèce invasive dans le milieu naturel. Ça peut être des blooms phytoplanctoniques, donc c'est des proliférations qui ont lieu naturellement dans le milieu marin, hein, de certaines espèces de plancton. Il y a certaines espèces introduites qui peuvent proliférer ponctuellement. Il y a une illustration, par exemple, ce sont les marées rouges. Voilà, il y a quelques nuisances aussi qui peuvent être dues à certaines espèces. Là, on voit par exemple un exemple sur l'encroûtement, sur une hélice de bateau. Il y avait une autre photo avec ce verre aussi sur un ponton qui est entièrement recouvert. Donc là, on est sorti de l'invisible pour les yeux. On est dans quelque chose qui est visible, donc qui provoque souvent des réactions et des demandes de gestion. Un stade qui est souvent jugé beaucoup trop tard. C'est-à-dire que une fois que ces espèces sont bien établies et prolifèrent, les mesures de gestion sont souvent assez coûteuses et très limitées en termes d'efficacité. Voilà, donc c'est ce programme recommandé qui s'intéresse à cette dernière partie, donc la phase de prolifération, donc dans la phase dont on appellerait ici l'invasion biologique. Une autre recommandation importante, et je crois que c'est en lien aussi avec ce qui était dans cette première table ronde, c'était la recommandation de mise en place d'un portail national dédié d'information et de base de données. Hein, c'est une présentation peut-être qui suivra. Faut savoir qu'en France, on n'a pas de base de données nationale dédiée. C'est peut-être lié au fait qu'on n'a pas de réseau de surveillance encore pour l'instant dédié, sûrement même. Mais c'est quelque chose de très important parce que c'est très lié aussi au processus d'observation et de suivi. C'est des choses qui peuvent se passer de façon informelle entre les stations marines. C'est des choses qu'on peut faire. Un collègue nous prévient qu'il a observé une espèce. On va avoir tendance à les voir. Souvent, plus on observe, plus on trouve. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment organiser. Mais dans ce processus d'information, de prévention et d'alerte précoce, ce portail et ces bases de données, c'est quelque chose de vraiment indispensable parce que ça agit directement sur l'observation elle-même, l'efficacité de l'observation qui alimente elle-même du coup ces bases de données, qui alimente ce portail, etc. Donc c'est quelque chose d'important à mettre en place déjà au niveau national, mais évidemment aussi en lien avec les autres pays au niveau international. C'est des choses qui commencent à se mettre en place aussi au niveau international. C'est pour ça qu'il est urgent qu'on s'organise au niveau national. Pour ces processus d'alerte qui ont lieu aussi, vous avez vu la diapositive avec le trafic maritime, donc qui est bien au-delà de nos frontières et quelquefois des océans. Donc c'est quelque chose aussi d'important. Voilà, je vous ai mis l'adresse internet qui résume ces travaux donc, qui ont été menés récemment. Voilà. Et à la fin, un petit schéma compliqué que j'avais mis au début de cette présentation avant, mais qui fait tellement peur que je le mets à la fin maintenant. Mais on voit quelque chose de très important. C'est quelque chose
vous allez
qui
nous commenter quand même.
Oui. Donc, c'est ce fameux schéma en haut, vous voyez donc la source de propagation. Donc les vecteurs, hein, que ce soit les eaux de ballast, le fouling sur les coques, les lots de cultures marines qui sont échangés, etc., qui amènent donc l'introduction d'une espèce dans un milieu marin. Donc, suite à l'introduction et l'établissement de cette espèce, donc, qui est l'objectif en rouge de ce sous-programme numéro 2, de détecter ces espèces au moment de leur introduction, il peut y avoir ces phases de prolifération et d'invasion de ces espèces du milieu naturel. Et dans ce schéma que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il est lié directement à des options de gestion. C'est des choses qu'on ne voit pas souvent dans les publications scientifiques, enfin, dans celles que j'ai vues, hein. Il y en a plusieurs là-dessus, mais le thème est extrêmement lié, c'est-à-dire que là, je sors de mon champ de compétences, hein. Je ne suis pas juriste ou sociologue, mais c'est quelque chose de très important parce qu'on voit très bien que les suivis dans les vecteurs, dans les activités humaines, nécessitent bien évidemment des mesures, des lois, et voilà, des suivis, des contrôles dans les activités humaines, ça passe par les gestionnaires et par les réglementations.
Merci. Merci beaucoup.